Au cours des deux dernières semaines, Charles Dubé-Bray a été nommé entraîneur-chef des Black Jacks d'Ottawa de la Canadian Elite Basketball League. Les Buccaneers de Tampa Bay ont remporté le Super Bowl. Tom Brady est une légende. Il a gagné son 7e championnat. Sarah Thomas est devenue la première femme à arbitrer un match du Super Bowl. Et avez-vous vu la publicité de Toyota avec la para-athlète Jessica Long? Pendant que les amateurs de football se remettent de la fin de semaine du Super Bowl, nous, pour la prochaine heure, on parle de sport. Mes invités aujourd'hui seront Louis Garon, Yvan Deslauriers, Catherine Gosselin-Després, François Lava, Nathalie Séguin, Amélie Soulard, à la technique Mathieu Tessier et à la coordination Louis Garon. Mon nom est Dominique Tremblay et au cours de cette émission du 9 février, nous parlerons des Jeux paralympiques de Tokyo et des mesures entourant la pandémie, l'absence d'activité physique chez les jeunes, de goalball et des activités de la SAQ, la vie de joueurs de quilles professionnels, de football en fauteuil roulant et des internationaux de tennis d'Australie. Dans moins de 200 jours, les Jeux paralympiques débuteront à Tokyo, si tout va bien. Le comité organisateur, le CIO et l'IPC ont pris les grands moyens pour s'assurer que les Jeux puissent se tenir dans la plus grande sécurité en publiant un playbook, une marche à suivre, que tous les participants devront suivre à la lettre. J'en parle avec Catherine Gosselin-Després, qui est la directrice des sports pour le comité paralympique canadien. Bonjour Catherine, ça va bien?
Bonjour Dominique, oui, ça va très bien. Merci.
Donc, comment le CPC et toi, en tant que directrice du département des sports, ont réagi à la suite de la divulgation du plan de match du comité organisateur de Tokyo 2020?
Bien, c'est sûr que nous autres, on était contents d'avoir de l'information officielle qu'on peut utiliser pour pouvoir un petit peu aller de l'avant. Là, on avait des bouts d'informations, mais là, ça, c'est beaucoup plus officiel. C'est mis de l'avant comme la direction qui va être prise. Donc, pour nous, ça nous aide parce qu'on faisait des plans, mais c'est sûr qu'on travaillait plus dans des scénarios. Donc là, ça donne un petit peu de clarté ou au moins des lignes directrices vers où on doit s'en aller. Donc, c'était vraiment bien de recevoir ça ce matin. Puis on était contents de pouvoir le réviser le plus tôt qu'on l'a eu dans nos courriels. On a pris le temps de tout lire ça.
Et tu peux-tu me dire à peu près les grandes lignes des mesures qui vont être prises par le comité organisateur?
Oui, absolument. Dans le fond, les mesures qui étaient identifiées dans cette version du playbook, parce qu'il y en aura d'autres, on est supposé en recevoir d'autres versions au cours du printemps. Ils ont mentionné avril et puis un petit peu plus tard, là, plus près des Jeux, où on va avoir des mises à jour sur ce qui est déjà dans cette version-ci. Là. Mais actuellement, c'est sûr que c'est vraiment plus des mesures à un haut niveau, là, si on veut, qui décrivaient vraiment un peu comment les membres de notre équipe vont vivre un peu leur expérience du départ de chez eux, un peu, jusqu'à temps qu'ils arrivent au jeu et comment ça va se passer au cours des Jeux. Donc, beaucoup plus d'informations sur un peu comment ils doivent... faire attention à ce qu'ils font 14 jours avant de partir. Après ça, qu'est-ce qui va se passer en arrivant à l'aéroport à travers les tests potentiels quand ils vont arriver au village, puis au cours comme dans le fond des séances d'entraînement puis des compétitions. Puis après ça, qu'est-ce qui va être demandé pour le retour à la maison. Là. Donc, ça décrivait beaucoup plus, je dirais, les mesures COVID, là, si on veut. Puis... comment un peu ces mesures-là vont être implantées dans l'environnement des Jeux, ce qui va être vraiment différent de ce qu'ils sont habitués d'avoir.
Donc, par exemple, est-ce que le vaccin va être absolument nécessaire pour participer aux Jeux?
Actuellement, dans le document qu'on a lu, c'est mentionné que c'est pas obligatoire d'avoir le vaccin. Je crois que l'IPC, le CIO puis Tokyo réalisent qu'il y a plusieurs pays à différents stades de vaccination. Donc, c'est un petit peu là que je pense qu'ils ne pouvaient pas rendre ça obligatoire. Là, donc, mais c'est sûr qu'ils recommandent que si c'est possible, aux gens de l'avoir, ça serait bien de l'avoir. Là. Donc, c'est un petit peu ça là, vers la fin du document qui est écrit. Donc, c'était leur point sur la vaccination.
Donc, au cours des dernières semaines, il y a eu beaucoup, beaucoup d'articles dans les journaux avec beaucoup d'incertitudes. Les jeux vont se tenir, ils ne se tiendront pas, ainsi de suite. Est-ce que ce genre de document-là peut rassurer les athlètes et vous au CPC pour dire « Ah oui, les jeux vont probablement avoir lieu. » Je ne veux pas dire « vont avoir lieu » parce qu'on ne sait jamais, là, mais « probablement avoir lieu ».
Oui, bien, c'est sûr que ça nous rassure. Puis, tu sais, c'était très clair ce matin. On a aussi une séance de brefage là, avec l'UPC et Tokyo sur le document. Puis, ça a été mis très clair qu'actuellement, tout allait être fait dans le pouvoir des gens qui sont en pouvoir de décision, qui vont mettre en place les mesures pour que les Jeux aient lieu le plus possible. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils se réservent aussi un peu de temps en termes de publier des nouvelles versions des mesures, tout ça, là, puis voir un peu comment ça évolue à travers le monde. Mais ouais, je pense vraiment que les informations qu'on a reçues, puis ce qu'on va recevoir, qui risque d'être encore plus détaillé, va définitivement apporter beaucoup plus de certitude que les Jeux auront lieu de façon sécuritaire pour tous les gens qui seront là pour participer.
Vous, je sais que tu t'as dit plus tôt dans l'entrevue que vous travailliez sur différents scénarios. Est-ce que dans le document, il y avait des surprises ou des choses que vous attendiez pas ou si c'est cool, on sait où est-ce qu'on s'en va puis il n'y a pas d'affaire de 180 degrés vous devriez travailler?
Ouais, ben c'est sûr que nous là depuis le début de la pandémie, on avait étudié tous les concepts de bulles là qui existent à travers les événements sportifs au Canada et international. Donc on savait que ça allait se diriger un petit peu vers cette direction là. Donc c'est un peu pour ça que on avait planifié des scénarios, mais c'est clair que notre scénario principal est vraiment complètement aligné avec ce qu'on a vu dans le playbook aujourd'hui. Fait que ça, c'est positif. Là, on va pas recommencer à zéro. Je te dirais, par exemple, qu'actuellement, là, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va planifier pour plus de mesures, être plus conservateur. Puis, tu sais, si on voit dans les nouvelles versions, ils en rajoutent, ben, tu sais, on s'ajustera, mais on veut aller vraiment, là, nous autres, là, on veut vraiment que les athlètes puis les entraîneurs puis les équipes de sport se sentent en confiance avec ce qu'on fait. Puis on va s'assurer là, de tout faire pour la santé, la sécurité, mais tout en aussi les encourageant dans leur performance. Là. C'est sûr qu'avant la pandémie, les buts étaient différents un peu dans notre livraison de l'environnement parce que on va diminuer les distractions pour maximiser les médailles. Ça, c'est sûr que c'est encore là, mais c'est une autre vision qu'on doit prendre parce qu'il faut qu'on ait un environnement sécuritaire. Que tout le monde ait confiance dans nos processus, puis qu'est-ce qu'on va faire en termes de protocole, que ça soit COVID, médical, etc. Puis c'est un petit peu ça que là, il va falloir qu'on raffine là, au fur et à mesure des mois qui s'en viennent.
Et donc, ça fait plusieurs mois que les athlètes n'ont pas eu de compétition, très peu d'entraînement, pas vraiment d'objectifs clairs. Les athlètes, la routine, c'est super important. Toi, au CPC, tu as la chance de parler avec plusieurs fédérations nationales. Comment est le moral auprès de l'équipe canadienne, les athlètes qui ont la possibilité de faire l'équipe canadienne présentement?
Bien, je dirais que présentement, ça va quand même assez bien, mais c'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas là, depuis mars dernier, là, de ce qu'on comprend. Puis, c'est sûr que les athlètes qui s'entraînent pour Tokyo actuellement, plusieurs d'entre eux ont quand même pu aller s'entraîner grâce à des exemptions là, des différents paliers du gouvernement, ce qui a été vraiment un plus. Là. C'est sûr que c'était pas nécessairement exactement l'environnement qu'ils connaissaient avant que la pandémie commence, mais je pense que ça leur a donné de la motivation, puis aussi ça va leur donner une bonne idée de qu'est-ce qui va se passer à Tokyo. Tu sais, les mesures qu'on a au Canada sont déjà très strictes là, comparées des fois à d'autres pays dans le monde. Donc, je pense que tu sais, ils essaient vraiment de se focusser sur ça puis de s'assurer qu'ils gardent Tokyo en tête. Là, mais tu sais, actuellement, je dirais que le moral est un petit peu plus probablement à la hausse là, parce que tu sais, il y a un peu plus de lumière au bout du tunnel, il y a de l'information qui sort. Il y a des compétitions potentielles qui s'en viennent pour certains sports plus après avril. Là. Mais c'est comme si ça redémarre là, tranquillement, pas vite.
Puis moi, j'ai été athlète aux Jeux paralympiques d'Atlanta, puis aux Jeux paralympiques d'Athènes, pas d'Athènes, de Sydney, pardon, en 2000. Dans le village, c'était des gros parties après nos compétitions. Les athlètes, à cause de la pandémie, ça risque d'être un peu différent.
Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, tantôt, je parlais de l'approche conservatrice, là. Tu sais, nous, on va être quand même sévère, là. Puis, tout ce qui est dans le playbook aussi, tu sais, ça va être un peu dans les ententes qu'on doit avoir avec l'UPC, puis Tokyo, pour, tu sais, nos acceptations. Donc, il va y avoir des certains codes de conduite et de comportement à suivre. Puis, c'est sûr que nous, là, actuellement, tu sais, on y va avec les règles quand même strictes de santé publique qu'on connaît au Canada, puis c'est ça qu'on va implanter. Donc, les parties, je pense pas qu'on va l'avoir vraiment. On essaie d'éviter, tu sais, les rassemblements, tout ça, dans tous nos services qu'on est en train de planifier, là, puis, tu sais, d'utiliser des concepts qu'on voit un peu ici, là, tu sais, que ça soit sur demande. Donc, on est un peu en train de revitaliser toute notre manière de donner des différents services dans le village comme tel, pour mieux contrôler notre environnement dans notre édifice de l'équipe canadienne, si on veut.
Puis l'important, c'est que les athlètes rapportent des médailles de Tokyo, puis les objectifs restent les mêmes dans ce département-là.
Ouais, ben actuellement, c'est vraiment dur de changer les objectifs puis de savoir un peu ce qui s'est passé dans les autres nations. Fait que on reste vers la même veine, mais tu sais, si on voit qu'il y a d'autres indicateurs entre maintenant puis dans le fond, le mois d'août, peut-être qu'on va reviser nos objectifs. Mais actuellement, j'ai rien qui nous dit qu'on devrait les reviser à la hausse ou à la baisse. Donc, on va prendre ça comme ça. Mais c'est sûr que c'est peut-être moins clair que c'était la dernière fois qu'on s'est parlé, si on veut, là. Puis, ben c'est ça, là. On va attendre un peu de voir ce qui se passe dans les compétitions qui auront lieu, j'espère bien, dans les prochains mois.
Merci beaucoup Catherine, bonne préparation, puis on se reparle prochainement.
Super, merci beaucoup.
I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it.
Alors, les jeunes aiment bien bouger, mais depuis le début du mois de mars, ils ont passé plus de temps en confinement que sur un terrain de soccer, une patinoire ou dans un gymnase. Est-ce que cette longue période va avoir un impact à long terme? C'est un questionnement que je voulais partager avec Amélie Soulard, qui est une consultante en psychologie du sport et qui, entre autres, travaille à l'Institut national du sport du Québec. Bonjour Amélie, ça va bien?
Bonjour, oui, ça va très bien, merci.
Et donc, quel genre d'impact un long arrêt peut avoir sur la pratique sportive, d'après toi, chez les jeunes?
Ben, ça peut avoir des impacts à différents niveaux. Bien sûr, au niveau individuel, hein, donc si on arrête de s'entraîner et qu'on devient plus inactif, qu'on passe plus de temps devant la télévision ou à jouer aux jeux vidéo que justement sur un terrain de soccer ou encore là, sur une patinoire, bien, c'est certain que notre condition physique, notre masse musculaire, même notre système immunitaire va s'en trouver changer. Il va y avoir des changements, c'est certain. Il peut y avoir des changements aussi au niveau psychologique, hein. L'activité physique génère un bien-être subjectif pour toutes sortes de raisons, parce que ça vient nourrir notre besoin de compétences, ça vient nourrir notre besoin d'affiliation, d'autonomie. Et là, hop, tout d'un coup, ben, on n'a plus accès à notre équipe, à nos coéquipiers, à notre entraîneur. Où est-ce qu'on peut se sentir bon si nous, on était habitués de se sentir bon dans notre sport? Donc, ça peut avoir un certain effet là, sur l'humeur. Et on le voit, entre autres, hein, dans les chiffres qui sont sortis tout au long de l'année 2020. On sait que chez les jeunes adultes, je pense entre autres aux étudiants athlètes là, de niveau collégial et universitaire, ben on sait que ça a un effet entre autres sur leur niveau d'anxiété, mais aussi sur leur niveau de motivation, pas juste leur motivation en sport, mais aussi leur motivation scolaire. Chez les plus jeunes, nos athlètes là, de niveau secondaire, entre autres le sport-études, ben on sait que pour eux, c'est surtout l'ennui qui est l'émotion prédominante. Ils s'ennuient de leurs coéquipiers, de leur entraîneur, de leur sport. Donc, c'est sûr que sur l'humeur, ça a un impact. Mais il faut penser aussi aux impacts sur le plan, je vais appeler ça sociétal ou organisationnel pour les fédérations sportives, de reporter comme ça hein, les inscriptions de plusieurs mois, il y a des saisons qui ont été annulées complètement. Est-ce que les sportifs seront au rendez-vous à la prochaine saison? Les organisations sportives prévoient une baisse dans les inscriptions là, pour l'année 2021. Donc, ils ont déjà eu une baisse en 2020, une baisse en 2021. Donc ça se peut qu'il y ait des années de vache maigre pour les clubs sportifs et les fédérations sportives.
Je veux te donner un exemple très personnel à moi. Ma fille a 10 ans, elle fait de la gymnastique de compétition. Pas de très haut niveau, mais quand même de compétition. Généralement, pas pandémie, elle s'entraîne 10 heures par semaine dans un groupe de 8. Maintenant, on parle de 1 à 2 heures semaine par Zoom ou par cours privé. Pour sa santé mentale, sans nécessairement parler d'elle, mais de l'utiliser comme exemple, est-ce que c'est correct ou équivalent?
Bien, c'est sûr que c'est pas équivalent. Est-ce que c'est correct? C'est mieux que rien, certainement, hein, de rester connecté à travers Zoom, à nos coéquipiers, à notre entraîneur. On maintient le lien, on maintient la connexion, on sent qu'on appartient à l'équipe, que l'entraîneur, que l'équipe ne nous oublie pas. Donc, ça fait du bien. Mais c'est sûr que c'est jamais pareil que de s'entraîner avec nos coéquipiers, notre entraîneur, plusieurs heures par semaine, de partager des moments justement là, de proximité, d'intimité. Donc je dirais pas que c'est équivalent, non. Je sais que les entraîneurs vraiment ont déployé là, toutes sortes de stratégies justement là, pour maintenir la motivation de leurs jeunes athlètes, que ce soit des entraînements par Zoom, que ce soit des rencontres téléphoniques individuelles, que ce soit des webinaires, des lectures, etc. C'est une façon peut-être différente de rester en contact, mais je dirais pas équivalente, non.
Et toi, comme dans ton travail de psychologie du sport, tu rencontres des athlètes, quel outil tu leur donnes pour aider à la motivation qui pourrait être pas nécessairement positive par les temps qui courent?
Oui. Bien, en fait, pour rester motivé, il faut d'abord bien s'adapter à la situation. Hein. Il faut bien faire face à la situation. Puis il y a différentes façons de faire face à la situation. Il y a des gens qui, justement, vont faire face en cherchant des solutions à la problématique. Il y a des gens qui vont faire face en essayant de ventiler leurs émotions. Il y a des gens qui vont faire face en allant chercher de l'aide, en cherchant la connexion avec les autres. Il y a des gens qui vont être plutôt dans l'évitement. Qui vont faire semblant que tout va bien, que ça les affecte pas. Et donc, la manière dont on fait face aux situations va beaucoup influencer justement la manière dont on va, je vais dire, rebondir face à l'obstacle.
Okay.
Et donc, on va rester motivé ou pas.
Okay. Et comme parents, pour nos jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir leur motivation ou leur donner le goût de faire de l'activité physique? Vu qu'on n'est pas entraîneur, entre autres?
Bien, il y a plusieurs choses. Comme parent, je dirais, sur le plan psychologique, la première chose, c'est de faire attention à comment on perçoit la situation, comment on parle de la situation à la maison. Est-ce que c'est une crise? Est-ce que c'est le chaos? Est-ce que c'est horrible? Donc, les mots qu'on va utiliser vont beaucoup teinter la manière, justement, dont on va faire face à la situation, puis comment on va, justement, développer notre capacité d'adaptation puis notre résilience face à la situation. Est-ce qu'on peut trouver ensemble, parents, enfants, des opportunités dans cette situation-là? Est-ce qu'on peut changer notre perception puis voir un défi plutôt que de voir un problème dans cette situation-là? Puis là, je dis ça puis je ne veux pas du tout minimiser la situation, mais est-ce qu'on peut trouver des opportunités justement, de peut-être reconnecter ensemble sur le plan familial, de faire des activités qu'on avait peut-être délaissées, de refaire du sport ensemble, de découvrir d'autres sports ensemble, peut-être justement le ski de fond, ça, qui peut devenir une activité familiale intéressante, peut-être qu'on peut se faire des soirées de jeu, etc. Donc, je pense qu'il y a plusieurs opportunités et de justement voir ces opportunités-là, profiter de ces opportunités-là, mais je pense que c'est une façon de développer la résilience, mais aussi de maintenir une certaine motivation à travers le plaisir. Tu sais, on peut avoir du plaisir dans un contexte de pandémie malgré tout.
Merci beaucoup, Amélie. Tu as été extraordinaire. Tu as donné beaucoup d'outils. Je te souhaite une bonne fin de journée. On se reparle prochainement. Au revoir.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Nathalie Séguin est entraîneuse de l'équipe nationale masculine et l'équipe provinciale de goalball. Toutes les compétitions et les entraînements de groupe sont arrêtés. Elle travaille aussi à l'Association sportive des aveugles du Québec. Elle est au bout du fil pour savoir comment ça se déroule dans son sport. Bonjour Nathalie, ça va bien?
Oui, merci.
Alors, comment ça se déroule par les temps qui courent au goalball?
Présentement, on n'a pas réussi encore à recommencer en gymnase depuis mars dernier. Par contre, on a réussi à garder quand même des entraînements de groupe par Zoom ou des appels ensemble. Mais sinon, c'est encore beaucoup d'entraînements individuels à la maison puis des connexions avec les entraîneurs et les préparateurs physiques.
Je suis bien curieux. Du goalball en entraînement individuel par Zoom, ça se déroule comment?
En fait, j'ai développé des systèmes que j'avais jamais nécessairement utilisés avant. Donc, je fais beaucoup de vidéos dans les pièces de ma maison pour expliquer les différentes techniques de goalball. Puis j'explique, il y a plusieurs de mes athlètes qui voient pas du tout. Donc, je dois expliquer vraiment les mouvements puis toutes les descriptions et les éléments importants. À ce moment-là, sont capables de le faire à la maison, mais il faut toujours considérer l'aspect sécuritaire. Donc, s'ils n'ont pas beaucoup de place chez eux ou ils ont beaucoup de meubles, ben moi, je dois adapter tous mes exercices à leurs conditions, leur environnement qu'ils ont chez eux. Donc, c'est beaucoup de cas par cas. Mais ça se fait, mais il faut être créatif.
C'est sûr qu'avoir un divan dans le salon, ça peut être un bon gardien de but pour s'assurer qu'il n'y a pas de but qui se compte, par exemple.
Oui, c'est sûr. Je dirais que cet été, c'était beaucoup plus facile. Là. Quand on est arrivé à l'hiver, j'ai beaucoup d'athlètes qui m'ont indiqué qu'il y a beaucoup d'activités qu'ils ne pouvaient plus faire. Donc, à l'extérieur, ils allaient souvent lancer des ballons dans les parcs ou dans leur entrée de garage où ils installaient. Tu sais, j'ai un athlète qui a construit avec des plaques de bois un mur où il pouvait lancer le ballon dessus. Mais l'hiver, on peut pas lancer dehors, c'est difficile. On a un jeune athlète junior il a pu construire des bonhommes de neige, j'ai créé une petite partie contre des bonhommes de neige. C'était très rigolo, mais l'hiver, c'est plus difficile pour nous.
Okay. Et d'ailleurs, l'Association des sportifs des aveugles du Québec offre des formations. Il y en a une demain après-midi pour aider les entraîneurs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu en détail?
Oui, exact. Dans le fond, ça fait déjà plusieurs années qu'ils font ça. C'est des formations qui sont dirigées surtout à des entraîneurs, des intervenants ou des techniciens en loisirs là, qui vont travailler avec une clientèle qui a une déficience visuelle. Puis c'est surtout pour expliquer les différents types d'handicap visuel, quel type de directives leur donner, comment les approcher, comment bien les guider. Tout mettre en place pour qu'il y ait un environnement sécuritaire. Donc, ils ont une formation demain, mais ils en ont également, sinon, le 2 mars et le 25 mars également, qui présentement sont en ligne en raison de la COVID. Ouais.
Et donc, pour toi personnellement, l'équipe canadienne masculine s'est pas qualifiée pour les Jeux de Tokyo. Quelles sont les activités mises en place, par exemple, par l'Association québécoise pour augmenter la relève, puis que tu participes, toi, là, tu as parlé d'athlètes juniors, entre autres?
Oui, bien, présentement, on invite beaucoup nos juniors à faire le saut tranquillement vers nos équipes provinciales seniors. On a des programmes de mini-goalball, donc qui sont dirigés à jusqu'à 15 ans environ. Puis ensuite, on a notre programme junior qui est de 15 à 21 ans, qui ensuite peuvent faire le saut pour le programme senior. Mais on fait des ponts entre chacun des programmes pour qu'ils puissent être initiés au prochain niveau puis avoir une belle progression à travers tout ça. Mais le recrutement, c'est quand même quelque chose qui est pas si facile que je pense que tous les sports paralympiques, on a un travail à faire là-dedans qui n'est pas toujours évident là, dans notre contexte.
Pour vous, la relève, vous êtes capable de la trouver où, généralement?
C'est souvent les parents d'enfants ayant une déficience visuelle qui viennent directement nous contacter. On fait beaucoup de présentations dans des... la SAC fait beaucoup de présentations dans des forums, pas des forums, mais des congrès ou autres. Puis c'est là qu'on est en mesure de nous faire connaître, mais majoritairement, c'est beaucoup les parents ou les intervenants dans les centres de réadaptation de ces enfants-là qui nous contactent. Sinon, c'est que du bouche à oreille. C'est difficile présentement d'aller chercher notre clientèle dans les écoles puisqu'ils sont intégrés dans les écoles régulières. Puis c'est un peu plus difficile pour nous, là.
L'Association québécoise organisait à chaque année depuis 20 ans une compétition. Elle a d'ailleurs été annulée pour la première fois. Quelles sont les prochaines compétitions pour toi là, que tu vois?
Présentement, au niveau du calendrier provincial, on n'a absolument aucune compétition. Il y a possiblement le championnat canadien qui était planifié pour mai prochain, mais présentement, on a des oui-dire que ce serait... annulé également. Donc, au niveau provincial, on n'a absolument aucune compétition de planifier. Et au niveau national, pour l'équipe nationale masculine, par exemple, qui n'ira pas à Tokyo, notre prochain championnat, c'est notre tournoi de qualification pour les championnats du monde qui vont avoir lieu au Brésil au mois de novembre.
Donc, merci beaucoup, Nathalie. Je te souhaite une bonne journée. Et on s'en va à la pause de la mi-temps et on sera de retour.
Welcome to the Halftime Show. I'll just play it fast.
You watch me on your TV. Say that my job is easy. Can't judge me till you've walked a mile in my bowling shoes. So I don't get all the ladies. Got a mullet from the 80s. As
All right, one more verse.
Got a ball that's smooth and all black. I keep it in my favorite ball sack. Oh, yeah. As I finger every hole, and as I roll the ball, I cry. Let me bowl it every night. I'm almighty Matty Kye. The bowling god, the spell arising gets me high. Kiss those motherfucking bits goodbye. I'm almighty Matty Kye. The bowling, bowling, and not a single man will try to beat almighty Matty Kye. All who challenge me are slain. Come on, fuckers, pick a lane. Marshall Holt, Gary Dickens, get in line for your ass kickings. John Petraglia, Norm Duke, you're so lame it makes me puke. Who among the Pro Bowl sector dares to down his wrist protector? Not that pussy Nelson Burton, tell me that his wrist is hurting. Hey, Mark Roth, hey, Earl the Pearl, I scared to give the ball a hurl. How about Dickie Weber, his son Pete? I'll turn the motherfuckers to cream of wheat. And then I roll the ball, I cry, let me bowl it, let me die. I'm almighty Matty Kye, the bowling.
L'équi est un sport très populaire, comme on a entendu dans la chanson de Stephen Lynch de Bowling Song. L'équi font partie des sports comme le curling que des gens peuvent avoir de la difficulté à prendre au sérieux. Cependant, certains athlètes réussissent à s'illustrer avec beaucoup d'heures d'entraînement, comme François Lavoie de Québec. Il roule sa bosse sur le circuit de la Professional Bowling Association aux États-Unis. À la fin janvier, il s'est qualifié pour le championnat des joueurs. Bonjour François, ça va bien?
Bonjour, oui, ça va et vous?
Merci, très bien. Donc, quel est le tournoi, donnez un peu plus de détails sur le tournoi du championnat des joueurs qui va se dérouler le 21 février prochain?
Oui, c'est ça, le championnat des joueurs, bon, c'est un des 5 tournois majeurs de la PBA, incluant bon, le US Open. La PBA, c'est comparable à la PGA, si on veut, pour ceux qui ne connaissent pas ça tant que ça. Bon, 5 tournois majeurs, le championnat des joueurs, le Players Championship en étant un. La finale, comme vous l'avez dit, ça va être le 21 février. J'ai la chance d'être un des 5 finalistes. Puis, bon, c'est ça, là, je suis très content, évidemment, puis je suis très excité, puis j'ai hâte au 21 février.
Le tournoi va se dérouler, vu qu'il y a seulement 5 finalistes, je pense que la formule a un petit peu changé dû à la pandémie. Comment ça va se dérouler?
Oui, c'est ça. Bon, étant donné la pandémie, là, habituellement, tous les joueurs se rassemblent au même endroit. Ils jouent les qualifications au même endroit en même temps. Mais bon, là, avec la pandémie, ça n'a pas été possible de faire ça. Donc, ils ont changé la formule un petit peu. Ils ont divisé le pays, les États-Unis, en 5 régions différentes. Puis, dépendamment d'où les gens habitent, ils se sont fait mettre dans une des 5 régions. Puis bon, dans mon cas, j'habite à Wichita au Kansas. Depuis, je suis venu ici pour faire mes études universitaires en sport-études pour les quilles. Puis bon, étant donné que j'habite ici, j'ai été dans la région du Sud-Ouest. Donc, il y a eu les qualifications dans la région du Sud-Ouest. Les 5 premiers après cette qualification-là se sont rendus en demi-finale, si on veut appeler ça comme ça. Puis le grand gagnant de chacune des 5 régions va s'affronter pour la grande finale, pour le titre du championnat des joueurs, le 21 février.
Donc, vous faites partie de la Professional Bowling Association. Comme quilleur professionnel, c'est possible d'en vivre assez bien, comme le golf ou un autre sport de ce genre-là?
Oui, ben c'est sûr que bon, si on compare avec les autres sports majeurs, nos bourses ne sont pas les mêmes. On pense au golf, au hockey, on fait pas des millions de dollars, sauf que je dirais que pour les joueurs qui ont la chance, pour les joueurs qui se maintiennent dans le top 25, top 30 au niveau de la PBA. C'est sûr que pour nous, c'est possible, oui, de faire notre vie simplement avec ça. C'est sûr que c'est un environnement qui est très compétitif, étant donné, bon, comme j'ai dit, les bourses sont pas les mêmes, on gagne pas des millions, OK. Sauf que tout récemment, une des grandes corporations aux États-Unis, Bowlero, qui ont des centaines, même des milliers de salons de quilles à travers les États-Unis, a fait acquisition de la PBA. Puis, on a eu un bon contrat avec Fox pour les finales télévisées et tout ça. Donc, on a eu un influx en anglais. Là, cherche mémoire en français un petit peu, mais on a eu plus d'argent qui a été pompé dans le circuit. Puis, les deux, trois dernières années, là, il y a eu plusieurs joueurs qui ont pu bénéficier de cet argent additionnel-là.
Puis si j'ai bien vu, là, au début de l'année, vous étiez classé 9e joueur sur le circuit, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Ça devait être ce que vous avez vu, les classements de l'année dernière, au classement cumulatif, bon, à chaque année, après chaque tournoi, on a des points qui sont attribués à chaque joueur, dépendamment de leur position finale à chaque tournoi. Puis, en fin de compte, à la fin de l'année 2020, bon, c'est ça, comme vous avez dit, j'étais 9e au classement.
Donc, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai joué au quilles. C'était une activité parascolaire à l'école. Plusieurs autres personnes, tout le monde a à peu près déjà joué au quilles. Il y a même eu le samedi quilles à la télé quand j'étais plus jeune. La passion de ce sport-là, vous est venue comment?
Bon, moi, j'ai commencé, en fait, je me souviens pas vraiment comment j'ai commencé à jouer au quilles, mais mon père jouait dans une coupe de ligue quand j'étais jeune. Puis, bon, mes parents me disent que j'ai commencé vers l'âge de 2 ans. Évidemment, je me souviens pas de ça, sauf que mon père m'amenait avec lui au salon de quilles au lieu d'essayer de trouver une gardienne, d'essayer de me faire garder tout le temps. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis, vers l'âge de 8-9 ans, je m'étais joint à une ligue junior à Québec. Puis, commence à entendre parler de quelques tournois, des petits tournois aux alentours de la ville de Québec pour les joueurs juniors, pour les jeunes. Puis, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Là, vers l'âge de 8-9 ans, j'ai commencé à faire des petits tournois, des tournois juniors dans les 11 ans et moins dans la ville de Québec. Puis éventuellement, bon, à 16 ans, je me suis qualifié pour l'équipe canadienne junior des moins de 21 ans pour la première fois. Puis ça a vraiment commencé mon parcours, là, comme j'ai dit tantôt, mon parcours universitaire aux États-Unis, puis depuis 2016 sur le circuit professionnel.
Quand vous avez commencé, là, à 7-8 ans, est-ce que vous avez commencé avec les rampes de métal comme moi, les personnes en fauteuil roulant ont utilisé, ou si vous étiez capable de lancer la balle, les grosses boules dès le départ?
Oui, non, c'est ça. J'ai toujours joué aux grosses quilles. J'ai jamais joué aux petites. Mais de mes souvenirs à moi, j'ai jamais vraiment utilisé la rampe. Là, peut-être, bon, j'ai dû sûrement l'utiliser quand j'avais 3, 4, 5 ans, mais vers 7-8 ans, j'avais comme une technique à deux mains. Là. Je lançais. Je gardais mes deux mains sur la boule en tout temps pour la lancer. C'était comme plus, je faisais juste pousser la boule là, un peu. mais non, depuis que j'ai, c'est ça, 8-9 ans, là, j'ai essayé de développer la bonne technique. Puis j'ai toujours joué aux grosses quilles.
Puis c'est quoi la bonne technique pour lancer aux quilles?
Ben ça, je te dirais qu'en ce moment, c'est un petit peu un sujet qui est débattu. C'est un sujet délicat. Parce que, bon, le meilleur joueur au monde, présentement, a une technique à deux mains. Donc, un peu comme on verrait des gens qui vont jouer une fois par année juste pour s'amuser. Lui, c'est comme ça qu'il a commencé à jouer. C'est un Australien, Jason Belmonte, son nom. Il a commencé à jouer à deux mains, puis il n'a vraiment jamais arrêté. C'est juste ça, son histoire. Là. Il a commencé à avoir du succès avec sa technique à deux mains, puis c'est ce que lui a poursuivi au long de sa carrière. Puis bon, aujourd'hui, il est numéro un mondial. Donc, la bonne technique, comme vous demandez, c'est un sujet délicat. Il y a certaines personnes, les traditionnalistes, eux n'aiment pas la technique à deux mains. Disent que c'est... Ils essaient d'argumenter pour dire que c'est triché, mais c'est ça. Bon, la bonne technique, là, on dirait la technique traditionnelle, c'est prendre 4 ou 5 pas sur l'approche avec un lancer à une main. Mais bon, comme je dis, c'est ça, c'est un sujet qui est débattu en ce moment.
Donc, ce qui est important, c'est la répétition.
Oui, oui, exactement. C'est vraiment un sport de répétition. C'est ça qui est le plus important. Il y a beaucoup, il y a énormément de termes puis de techniques qui entrent en bout de ligne, mais pour garder ça le plus simple possible, c'est la répétition qui est le plus important au kili.
Et en terminant, quel est le plus beau moment dans votre carrière de kili?
J'ai été chanceux d'avoir plusieurs beaux moments déjà dans ma carrière, mais je dirais que le plus beau serait mon deuxième titre du US Open. Donc, j'ai gagné, à mon année recrue, j'ai gagné le US Open pour la première fois. Puis, en 2019, j'ai gagné à nouveau le US Open. Puis, je dirais que cette deuxième fois-là a probablement été le moment le plus mémorable dans ma carrière. Juste étant donné l'adversité au cours de cette semaine-là, puis même de toute l'année 2019 qui n'avait pas vraiment bien été pour moi personnellement. Puis en octobre 2019, de finalement comme remonter la montagne puis d'être au sommet encore en gagnant le US Open pour la deuxième fois, ça c'était quelque chose de vraiment spécial, puis que je vais me souvenir de cette journée-là puis de cette aventure-là pendant longtemps.
En espérant que vous allez pouvoir rajouter le championnat des joueurs à votre palmaire, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.
Je l'espère. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à l'émission.
Ça fait plaisir. Alors, on vient d'entendre les dernières notes du spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Yvan, grand fan de football.
Oui, Dominique.
Et le Super Bowl, c'est un événement planétaire. Même le Comité paralympique international avait un article de football sur son site Internet.
Okay.
Tu vas nous parler un peu. Ça parlait de football en fauteuil roulant et d'un joueur qui joue pour les Chiefs de Kansas City, mais l'équipe en fauteuil roulant.
Exactement. Alors, il y a deux choses qu'on n'a pas vues lors de la partie du Super Bowl de dimanche dernier. En fait, il y en avait une là, que j'avais préparée pour ma chronique, mais il y en a une deuxième qui m'est venue à l'esprit il y a quelques instants. C'est un touché par les Chiefs de Kansas City.
Ça n'arrivait pas souvent.
Ça c'est pas arrivé.
Non, c'est ça.
Même si j'avais pris pour les Buccaneers, je m'attendais à un match serré, ça m'a un peu déçu.
Oui.
Mais l'autre chose, par contre, c'est que il y aurait dû y avoir une partie de présentation de la part de joueurs de football en fauteuil roulant. Parce qu'il y a une nouvelle ligue qui a été lancée tôt en 2020, ça s'appelle les American Wheelchair Football, le football américain en chaise roulante. Ça a été lancé au début de 2020 et il y a quatre équipes qui en font partie. Évidemment, à cause de la COVID, ils n'ont pas joué. Mais il y avait une équipe à Chicago, à Los Angeles, à Phoenix et à Kansas City. Alors, une des choses qu'on n'a pas vues dimanche à cause de la COVID, c'est un match d'exhibition de cette ligue-là.
Donc, avant qu'on parle du joueur des Chiefs de Kansas City, là, qui est intéressant, mais tu m'intrigues, le football en fauteuil roulant, ça n'arrive pas dans ma tête. Il y a des contacts, c'est du touch football, ça fonctionne comment?
OK. Alors, d'abord, ça a été développé par un professeur qui s'appelle Tim Nugent en 1948. Ça m'a vraiment surpris que ça ait commencé si tôt. C'est un sport qui a été développé pour permettre des compétitions entre les écoles aux États-Unis, entre les écoles pour pouvoir permettre à des personnes handicapées de pouvoir participer à du sport compétitif. À cette époque-là, ça avait été prévu pour que ce soit des chaises roulantes activées manuellement ou à moteur. Et ce qui est arrivé, c'est que les power chair football, les chaises roulantes...
Juste une question, Yves, juste pour être sûr, tu as dit 1948, c'est-tu la bonne date?
Oui, j'ai vraiment dit 1948, au siècle dernier. Et c'est devenu le wheelchair soccer, ou bien le soccer adapté pour les chaises roulantes motorisées. Je reviens au football en chaises roulantes. Cette année, en 2020, Bob Woodruff, c'est un animateur de nouvelles aux États-Unis qui a eu une expérience assez traumatisante en Afghanistan. Le véhicule dans lequel il était a sauté. Lui, s'en est tiré indemne. Mais au retour, il a parti une fondation pour aider les gens qui sont amputés, particulièrement suite à des accidents de ce genre-là, à pouvoir s'exprimer à travers le sport. Alors, la Fondation Bob Woodruff et la Ligue nationale de football ont soutenu le démarrage de la Ligue américaine de football pour les chaises roulantes. Ça devait être cette année, mais évidemment, à cause de la COVID, ça n'a pas pu se faire. Alors là, comme tu disais tantôt, Dominique, tu étais curieux de savoir ça se faisait comment, cette affaire-là. Alors, ça prend une surface de jeu de 76 verges. Donc, le terrain lui-même a 60 verges et il y a deux zones de but de 8 verges chacun. C'est des équipes de 7 joueurs. Au lieu de faire 4 essais pour 10 verges, on doit faire 4 essais pour se rendre à la ligne de 15 et ensuite 4 autres essais pour faire le 15 verges qui reste pour pouvoir éventuellement faire un toucher. Les plaqués, c'est du touch football, mais là, tu es en chaise roulante puis ça va vite, fait que ça cogne. Mais les plaqués, il faut appuyer la main sur le torse. Il faut que ce soit au-dessus de la ceinture du joueur adverse.
OK.
Le pointage, c'est sensiblement la même chose. Évidemment, il ne peut pas avoir de beauté de précision ou même de beauté de placement. Parce que
ça pourrait être intéressant, mais bon, c'est une autre histoire.
Un autre point. Alors, ils peuvent quand même, pour le converti, ils peuvent faire un jeu de passe. Et si le jeu de passe réussit, c'est un point. Et si c'est une course, ou si c'est pas un jeu de passe, puis ça réussit, c'est deux points. Le match dure 60 minutes, 4 quarts de 15 minutes, c'est du temps continu. Donc, quand l'horloge part, ça n'arrête pas, sauf à 2 minutes de la fin de la demi ou à 2 minutes de la fin du match. Et là, c'est un 2 minutes semblable à la Ligue nationale de football, avec des arrêts de jeu si le ballon est, par exemple, est saisi à l'intérieur, si le plaqué a lieu à l'intérieur des lignes. Il n'y a pas d'échappée comme telle, à moins que ce soit lors du botté d'envoi, du lancer d'envoi. À ce moment-là, si la personne échappe le ballon, elle peut le ramasser et essayer de rouler avec au lieu de courir avec. Il faut tout ajuster notre langage. Mais si, par exemple, un joueur part avec le ballon et l'échappe, ben le ballon est déclaré mort et le jeu va reprendre à cet endroit-là. Et chose intéressante, les 7 joueurs sur le jeu peuvent attraper une passe, contrairement au football américain, où il y a des joueurs qui ne peuvent pas attraper le ballon.
Donc, il reste à peu près un gros 45 secondes.
Ah, mon Dieu, déjà?
Ben oui, ça va vite. Est-ce que tu peux me parler de ce joueur de Kansas City, finalement?
Oui, Matt Bourlig, qui est quart arrière, comme Patrick Mahomes, pour l'équipe de Kansas City en fauteuil roulant. Lui a déjà joué pour vrai au football. Il était dans la même équipe que Jason Pierre-Paul et Levante David, deux des secondeurs de ligne qui ont gagné le Super Bowl dimanche dernier contre Kansas City. Il s'est blessé dans un gym en faisant des poids et haltères en 2012 et il était paralysé. Et puis depuis ce temps-là, il a commencé à jouer au football en chaise roulante. Il adore ça et il espère un jour pouvoir jouer contre des vrais joueurs qui seraient dans des chaises roulantes pour qu'ils réalisent la difficulté de ce sport-là.
En espérant qu'ils puissent avoir la chance de jouer durant le Super Bowl en fauteuil roulant l'année prochaine. Merci beaucoup, Yvan, et à la prochaine.
Merci, au revoir.
Alors, c'est les internationaux de tennis d'Australie. On en parle avec Louis Garon. Bonjour Louis, ça va bien?
Bonjour Dominique, ça va très bien.
Donc, c'est quoi les internationaux d'Australie? Ben, c'est laquelle édition?
C'est la 109e édition. Hein? C'est un des quatre tournois majeurs, 53e de l'ère moderne, hein, qui remonte à 1968. Quand on parle d'ère moderne au tennis, Dominique, on parle que c'est là où les joueurs professionnels et amateurs ont pu participer à des tournois du Grand Chelem. Parce qu'autrefois, notamment le tournoi des internationaux d'Australie étaient réservés strictement qu'aux joueurs amateurs. Les champions en titre, chez les femmes, il y a Sofia Kenin, l'américaine, et chez les hommes, Novak Djokovic, le Serbe numéro un mondial. Même si le tournoi peut reposer sur une organisation exemplaire, hein, qui traite souvent les joueurs et joueuses aux petits oignons, et peut-être parfois même que les tournois comme les internationaux de France, Roland-Garros, Wimbledon ou US Open, ou le Flushing Meadows aux internationaux des États-Unis, c'est parce que souvent, on veut convaincre les joueurs les plus réticents de faire le voyage jusqu'en Australie en début d'année. Parce que là, le tournoi est présenté en février, mais d'habitude, le tournoi est présenté, débute en général à la deuxième semaine de janvier, à la mi-janvier. Ce qui fait en sorte que, bon, on n'est pas loin du temps des fêtes et ça prend un peu plus de temps. Les joueurs veulent se reposer davantage, la saison était longue, alors c'est plus dur de les convaincre de venir en Australie, mais il faut dire que les organisateurs des choix sont en mesure de les convaincre par les accommodements et tout ça. Il faut dire également que les internationaux d'Australie sont un peu moins prestigieux que les autres tournois, comme Wimbledon notamment, ou le US Open. Sur la surface, on parle d'une surface dure qui s'apparente à celle des internationaux des États-Unis. Et il faut savoir aussi qu'autrefois, le tournoi était disputé sur gazon, et ce, jusqu'en 1987.
Et les Canadiens font quand même assez bien.
Oui, parce que le Canada, hein, depuis quelques années, est reconnu comme l'une des puissances mondiales du tennis. Chez les hommes, on dénombre 3 joueurs parmi les 20 favoris. Denis Shapovalov, 11e, Miloš Raonic, 14e, et Félix Auger-Aliassim, qui est tête de série numéro 20. Shapovalov a été victime, hein, de l'un des plus mauvais tirages, hein, pour un 11e favori. Il est tombé sur l'Italien Yannick Sinner, âgé de 19 ans, l'une des vedettes montantes du circuit. Et Shapovalov a dû travailler dur, hein, victoire à l'arraché en 5 manches. On l'écoute.
I'm just really happy to get the win. Obviously, Yannick's such a great opponent, and honestly, he's so talented, he's so great, such a great guy. So, of course, I knew it was going to be a tough match going into it.
Bien sûr, il louange son adversaire, Yannick Sinner, qui dit qu'il est un très bon joueur, un très grand joueur, même à son jeune âge, à 19 ans, qu'il est déjà parmi l'élite mondiale. Pour ce qui est de Miloš Raonic, bien, victoire facile face en 3 manches face à l'Argentin Federico Coria. Son prochain adversaire sera le Français Corentin Moutet. Et également, victoire facile en 3 manches de Félix Auger-Aliassime. Son adversaire lors du deuxième tour sera l'Australien James Dotwork, âgé de 29 ans et qui est 105e joueur mondial.
Chez les femmes, il y a Bianca Andreescu qui revient en force.
Oui, Bianca Andreescu, 8e tête de série, championne des internationaux des États-Unis en 2019. Depuis, bon, elle a eu de nombreuses blessures qui l'ont gardée à l'écart des cours au cours de la dernière année. Elle affronte aujourd'hui la Taïwanaise Yi Sui. Mais une des belles histoires également chez les femmes, c'est Rebecca Marino, hein, qui va se mesurer à la 19e tête de série, la Tchèque Markéta Vondrousova. Marino, 30 ans, hein, ancien espoir du tennis féminin. En 2013, elle a quitté le sport. Elle a été victime d'une dépression, hein, elle a des problèmes de santé mentale, et ça lui a pris quand même un certain temps avant de se remettre sur pied. Et elle a réussi à atteindre le tableau principal à la suite des qualifications. Alors, c'est pour vous dire que Rebecca Marino, c'est l'une des belles histoires du tennis féminin pour ce qui est de Leila Annie Fernandez, qui, elle, représente le plus bel espoir chez les femmes. Bien, elle a subi l'élimination au premier tour face à la Belge Elise Mertens. Elle s'est inclinée en 2 manches de 6-1 et 6-3.
Les qualités mentales, on en parlait avec Marino, sont importantes, tout aussi importantes au tennis.
Oui, parce que le tennis, il faut le savoir, c'est comment on gère les moments importants. C'est un peu comme dans tous les sports, mais le tennis est encore plus marquant, Dominique, parce que lorsqu'un point peut potentiellement faire la différence entre la victoire et la défaite, et ça, on le sait souvent lorsqu'on a un point de bris sur son service, lorsque nous, on a un point de bris pour briser l'adversaire, et on sait exactement que si on remporte ce prix-là, ça peut vraiment nous donner des bonnes chances de l'emporter. Alors, c'est important, on se pose souvent la question, quels joueurs ou joueuses vont céder en premier au découragement et ainsi perdre la concentration nécessaire pour se maintenir dans la partie? Ce qui est très difficile face au à faire au tennis, Dominique, c'est, et comme dans d'autres sports, je le disais, c'est de rester dans le moment présent. Hein? Ne pas se projeter trop en avant quand ça va bien. Hein? On va dire, ah, ça va être facile, je mène déjà 3-1, je vais gagner 6-1, puis le match est déjà terminé dans ma tête, et non. Et surtout, d'oublier rapidement ses erreurs quand ça va mal, parce qu'on peut être dans une spirale descendante. Gaël Monfils, lui, possède toutes les qualités physiques pour se mesurer au plus grand sans complexe, mais parfois, ce n'est pas suffisant et la défaite est souvent cruelle.
Alors, je vais te donner la phrase simple de ma mère, tu vois. Elle va me dire, tu vois, il faut continuer à s'entraîner et ça reviendra. C'est ce truc.
Merci, Gaël. Bon courage.
Ah oui, des fois, le sport peut être cruel au tennis. Il faut être vraiment fort et dans le moment présent et de rester très concentré. Alors, ce tournoi majeur, premier de la saison, Dominique, on va surveiller l'avènement de la nouvelle génération. De nouveaux joueurs sont en train de s'imposer sur le circuit et ça devrait être la confirmation. Et je prédis un nouveau champion autre que Novak Djokovic.
Donc, merci Louis pour ta bonne chronique. On se voit dans 2 semaines. Merci à tous mes invités et à plus tard. Au revoir.